Pour mon travail, par exemple, où je tape beaucoup sur un clavier, là, ça devenait handicapant parce que je loupais des touches, vu que le bout des doigts était engourdi, je visais pas très bien les touches. Donc, ça me prenait beaucoup plus de temps pour écrire un texte, par exemple.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile, et le quotidien 24 heures. Des picotements ou des engourdissements dans les doigts, surtout la nuit ou le matin au réveil, c'est peut-être les signes d'un syndrome du tunnel carpien. Cette affection courante touche de 1 à 3% de la population et majoritairement des femmes. Elle est aussi l'une des principales interventions en chirurgie de la main, puisqu'en Suisse, on en pratique quelques 20 000 chaque année. Mélanie est journaliste, un métier où écrire sur son clavier avec des doigts engourdis devient vite très handicapant.
Les symptômes en fait de ce canal carpien ont commencé au moment où je me réveillais le matin avec les doigts un peu engourdis. Je me disais c'est juste des doigts engourdis suite à une mauvaise position pendant le sommeil. D'ailleurs, ils disparaissaient au bout d'un moment dans la journée, j'avais plus ces symptômes-là ou très peu, c'était assez difficile à identifier. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à avoir de l'électricité dans le poignet, dans un seul poignet, donc le poignet concerné. Donc là, ça m'a un peu plus alertée. Et puis, les doigts engourdis, au bout d'un moment, restaient engourdis tout le temps. Et là, je me suis dit, bon, bah là, il doit y avoir un autre problème que ma position pendant le sommeil. Et puis, en fait, très vite, je suis allée voir un médecin.
Le docteur Jean-Benoît Épinay, spécialiste en neurologie dans les cliniques Boisset et Cécile.
Généralement, quand on présente un syndrome du tunnel carpien, on a au tout début des fourmillements qui viennent dans les doigts des mains. Habituellement, on décrit plutôt les trois premiers doigts, les quatre premiers doigts de la main. Ça survient de préférence la nuit ou au réveil, avec une sensation d'engourdissement comme ça des doigts. Le syndrome du tunnel carpien, en fait, c'est une compression de ce qu'on appelle le nerf médian, le nerf qui s'occupe justement de ces 3-4 premiers doigts du point de vue de la sensibilité, au niveau du poignet. Et puis, ce nerf passe au niveau d'un petit canal au poignet, justement, qui est entouré de structures osseuses, tendineuses, et puis qui, quand il y a de l'inflammation dans ce canal, va avoir tendance à être comprimé. Et puis, la compression se manifestera justement par les fourmillements, voire une baisse de force. Quand on a un syndrome du tunnel carpien, en plus des fourmillements, ça peut être des difficultés à ouvrir les bocaux et puis des décharges électriques, notamment au niveau du poignet. Ça vaut la peine de bien les observer et puis de consulter dans ces cas-là. Ça touche plus les femmes que les hommes. Ça peut survenir à tout moment dans la vie, mais c'est vrai que c'est quand même plus fréquent autour de 40-60 ans, probablement par l'inflammation qui est plus fréquente à ce niveau-là, à ces âges-là. Voilà l'arthrose aussi qui peut participer au syndrome du tunnel carpien.
Pour la vie quotidienne, comme on la vit, l'essentiel n'était pas handicapant, mais pour mon travail, par exemple, où je tape beaucoup sur un clavier, là, ça devenait handicapant parce que je loupais des touches, vu que le bout des doigts était engourdi, je visais pas très bien les touches. Donc, ça me prenait beaucoup plus de temps pour écrire un texte, par exemple. C'était aussi handicapant pour certains sports. Moi, je fais beaucoup de yoga. Pour le yoga, c'était assez handicapant parce que cette fameuse électricité suivant la position du poignet, tout d'un coup, elle me tombait dessus dans une position de yoga. Et puis donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en faire.
Il y a effectivement plusieurs professions qui peuvent être touchées par ce syndrome. C'est typiquement les professions où on aura des mouvements répétés des mains. Je pense au travail, par exemple, de ménage, les travaux manuels, comme les maçons, enfin toutes les professions où on utilise ses mains de manière importante. Ça se voit aussi chez les serveurs, serveuses, où finalement, quelque chose qui est très fréquent, les gens qui travaillent à l'ordinateur, parce que ils vont avoir tendance à presser au niveau de ce poignet.
Je vais voir mon généraliste qui me dit oui, ça doit être le canal carpien. Je vous envoie chez un neurologue, ce que j'ai fait, et puis on a tout de suite identifié que c'était ça. On n'a pas tellement tâtonné, en fait. J'avais cette intuition. Lui, il était assez sûr aussi de son coup, et puis le neurologue a simplement confirmé tout ça.
Il y a plusieurs autres possibilités qu'un syndrome du tunnel carpien. Je pense par exemple à une hernie discale au niveau cervical qui pourrait faire des symptômes un peu ressemblants. Bien sûr, ça va être plutôt associé à des douleurs du cou, généralement. Et puis, il y a parfois aussi des affections au niveau articulaire, inflammatoires, qui peuvent se manifester un peu par des fourmillements, mais plus par des douleurs articulaires. Et puis ça nécessitera une autre prise en charge. Donc ça vaut la peine de consulter quand on a les symptômes qui débutent, effectivement. Mais en commençant, je pense toujours par le médecin traitant qui va pouvoir aiguiller ensuite chez le bon médecin.
En attendant le rendez-vous avec le neurologue, parce que le rendez-vous avec le neurologue intervient bien plus tard, puisqu'il y a pas mal d'attentes, en attendant, il me dit, on va essayer aussi de mettre ce qu'on appelle une orthèse, c'est-à-dire une attelle qui tient tout le poignet droit, pour éviter justement d'avoir des positions de mains pliées pendant la nuit. Quand la main est repliée, évidemment, ça aide pas. Parce que c'est la même histoire, en fait, quand on, si simplement on n'a pas de canal carpien, mais qu'on dort la main pliée, ça fait le même effet que le canal carpien naturellement. Donc, il m'a prescrit cette attelle, que j'ai mise. Il fallait que je la mette la nuit, justement, pour éviter de plier la main. Et puis, ça n'a absolument rien fait. Il n'y a eu aucun effet pour moi. Ça changeait rien du tout, puis c'était à la limite un peu désagréable parce que ça tient chaud, c'était plein de coussinets partout, puis c'était un peu serré. Donc j'ai assez vite arrêté de la porter.
Soit c'est très sévère, et puis à ce moment-là, il y a une indication à aller opérer plus ou moins rapidement. Soit c'est moins sévère, et puis on peut passer à la prochaine étape qui serait de porter une attelle la nuit, qui va permettre d'éviter que le poignet se fléchisse, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement. C'est une attelle donc, qui empêche de fléchir le poignet pendant la nuit et qui pourrait amener une amélioration des symptômes simplement comme ça. Ça marche bien en général quand le syndrome du tunnel carpien n'est pas trop sévère. Ça va être plus compliqué si c'est quelque chose de plus sévère.
Le neurologue, il fait une batterie de tests assez particuliers, c'est-à-dire qu'il fait passer de l'électricité d'un endroit du bras jusqu'au bout des doigts pour voir combien de temps l'électricité met à arriver. Et ça mesure en fait la réactivité du nerf pour savoir si le nerf est coincé, parce que l'idée du canal carpien, c'est que le nerf est coincé et puis l'information a du mal à passer le long du nerf jusqu'au bout du doigt, et c'est pour ça qu'on a les doigts engourdis. C'est pas très agréable, ces tests qu'il fait. Vu que c'est de l'électricité qui passe, ça picote un peu, mais ça fait pas mal. Mais c'est intéressant aussi comme batterie de test, parce qu'on peut vraiment regarder ce qu'il fait. Donc il a un mètre, on dirait presque un couturier. Il a un mètre autour du cou, puis il mesure la distance entre le coude et le bout du doigt pour faire un rapide calcul de vitesse, en fait, de comment l'électricité se déplace d'un point à un autre.
Quand je reçois un ou une patiente qui a une suspicion de syndrome de tunnel carpien, je vais l'examiner avec un test de la sensibilité, de la main, du bras, comparer la gauche, la droite, et puis faire des petits tests pour voir si le nerf en question, le nerf médian, est particulièrement sensible au niveau du poignet. Simplement en tapant dessus, en appuyant dessus, et puis je vais évaluer la force de tous les muscles, des doigts de la main, du bras, et les réflexes, et ça va me permettre de localiser un petit peu mieux où se trouve l'atteinte. Et puis, pour confirmer le syndrome du tunnel carpien, je fais l'ENMG, l'électroneuromyographie, qui est un examen où je viens stimuler les nerfs et analyser leur fonctionnement en posant des électrodes à différents endroits du bras, justement. Et ça va me permettre de voir quelle est la sévérité de l'atteinte, de confirmer qu'il y a effectivement un syndrome du tunnel carpien, et puis de mesurer tout ça pour poser l'indication si il faut opérer ou non. Parfois, il y a aussi besoin de faire un bilan avec une aiguille, qu'on appelle une aiguille de myographie. On va venir écouter comment vont les muscles, en fait. Et puis les muscles qui sont en train de souffrir parce que le nerf est très abîmé vont faire un bruit différent que des muscles qui vont bien. Donc ça permet d'évaluer plus en détail la sévérité et puis de confirmer le diagnostic.
Alors ça c'était le verdict du neurologue, c'est-à-dire qu'il fait cette batterie de tests, puis après il dit bon ben là il y a une seule solution, c'est l'opération si vous voulez que ces syndromes disparaissent, parce qu'on peut très bien aussi avoir des symptômes puis se dire moi bon je vais vivre avec ça, j'ai pas envie de me faire opérer. Mais lui il m'a dit il y a rien d'autre que l'opération qui peut enlever ces signes-là des doigts engourdis, du poignet avec l'électricité. Ok, allons-y pour l'opération. Et puis l'opération, elle se passe en ambulatoire, elle dure 20 minutes, la mienne a duré 21 minutes précisément, on m'a dit, et puis on endort simplement le bras concerné, jusqu'à l'épaule, je crois, et le reste est tout à fait réveillé, y compris le cerveau. Donc moi j'ai assisté à mon opération, bien sûr derrière un drap, hein, on ne voit pas tout, on a juste des cathéters dans les deux mains, sur le dos des deux mains. J'avais un cathéter à gauche pour me mettre des produits un peu qui me calmaient, notamment du propofol, et puis de l'autre côté, ben, le cathéter pour envoyer le produit anesthésiant dans mon bras. Et moi, j'ai trouvé que c'était une opération plutôt... c'est bizarre de dire ça, mais presque une opération agréable, parce que l'ambiance est assez détendue, c'est pas une opération compliquée pour le chirurgien de la main qui fait ça depuis des années et tous les jours 10 fois. J'avais un infirmier qui était vraiment adorable, donc on a blagué, en plus l'effet du propofol, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la drogue, j'ai appris ça pendant l'opération, c'est la drogue dont Michael Jackson est mort, donc c'est le médecin qui m'a appris ça pendant que j'étais sous propofol, c'était très sympa, et donc on est assez détendu grâce à ça en fait, moi j'ai vécu ça d'une manière... calme, rapide, j'ai trouvé que ça allait très très vite, et puis je l'ai même pas vu passer, j'ai rien, évidemment rien senti puisqu'on est anesthésié, et puis après ben, quelques points de suture, et puis on remonte dans une salle où on se repose tranquillement après l'opération avant de repartir. En fait moi je suis repartie je sais pas, 1h30 après mon opération, je pouvais repartir, 2h maximum.
L'intervention est effectuée effectivement par des chirurgiens de la main. Et puis, c'est une intervention relativement fréquente et, entre guillemets, banale, où on fait une toute petite incision au niveau du poignet avec une ouverture d'un ligament qui va permettre, en fait, d'ouvrir ce tunnel carpien et puis de permettre au nerf médian. Et c'est une opération qui... est faite en ambulatoire et généralement associée à une récupération très rapide. Habituellement, si l'atteinte n'était pas trop sévère à la base, il n'y a pas de nécessité de faire une rééducation après l'opération. On peut très rapidement retourner au travail. C'est vraiment une opération qui, quand le diagnostic est bien posé, hein, est très efficace et permet un retour à la vie normale rapide. Par contre, si l'atteinte était plus sévère à la base, et c'est là où il faut être attentif, si par exemple il y avait une baisse de force nette dans la mobilité, notamment du pouce, ça pourrait être plus compliqué de récupérer. Souvent, quand il y a une baisse de force, des réelles difficultés de mouvement, c'est potentiellement qu'on est trop tard. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux symptômes de fourmillement initiaux.
J'ai pas eu tellement mal. On prend des Dafalgan, hein, des antidouleurs tout simples, et puis ça marche très bien. En revanche, après, il faut que ces points de suture se guérissent. On a quand même une attelle pendant une semaine. Puis pendant 2 semaines, on peut pas trop porter des choses. On est un peu handicapé quand même. Alors là, je pouvais pas, par exemple, pour porter des choses lourdes, je pouvais pas promener le chien parce qu'il fallait tirer sur la laisse. Alors là, tout de suite, ça faisait mal. C'était pas dangereux dans le sens où ça pouvait pas remettre en question l'opération ou faire des dégâts, mais ça faisait tout de suite mal. Donc j'arrêtais tout de suite tout effort au moment où je sentais la douleur. Et donc on est quand même un petit peu handicapé. Moi je fais beaucoup de vélo par exemple. Alors là le vélo c'était pas possible, notamment à cause du freinage. On peut pas activer ses doigts comme ça. On peut bouger les doigts. Je pouvais bouger les doigts très vite après l'opération, mais c'est vraiment juste l'action de porter des choses lourdes, de tirer des choses, et puis on se rend compte. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte combien de choses je faisais avec cette main. Avant ça, je me rendais pas compte. Et donc, je me suis trouvée un peu handicapée parce qu'aussi, je suis quelqu'un d'assez actif et puis je fais les choses souvent toute seule. Donc là, tout d'un coup, je vais trouver des moyens pour me faire aider, pour me débrouiller autrement.
Habituellement, on dit que l'opération, elle est efficace assez rapidement. En quelques semaines, l'inflammation, elle diminue, elle se résout. Le nerf médian retrouve de la place et donc ne devrait plus fourmiller. C'est vrai qu'au bout de 2-3 mois où on a des symptômes qui persistent après l'intervention, ça vaut la peine quand même de reconsulter, ça vaut la peine d'en discuter déjà avec le chirurgien de la main, s'assurer qu'il n'y ait pas eu de complications durant l'intervention. Et puis, éventuellement, refaire un contrôle à ce moment-là.
Mon médecin m'avait dit, après l'opération, normalement, une minute après l'opération, quand les mains se réveillent, c'est tout de suite efficace. C'est un truc mécanique, c'est-à-dire qu'on coupe le fameux canal carpien, et puis c'est comme dans une prise électrique, ben ça met de l'espace dans tous ces câbles, et puis ils se détendent, et puis donc l'information passe tout de suite directement au bout des doigts, donc les doigts sont plus du tout engourdis juste après l'opération. J'avais entendu plusieurs histoires comme ça d'ailleurs. Mon médecin, il y avait une pharmacienne à qui j'avais dit que je faisais ça, qui m'avait dit « Ah, moi j'ai fait !» Et puis alors c'était spectaculaire, donc je me disais « Super, je vais retourner après l'opération en haut, dans la chambre où je me réveille, et puis je vais plus sentir ces dents engourdies. » Et que nenni, mes doigts étaient encore pas mal engourdis, donc je me suis dit « Bon, bah, peut-être demain ça ira mieux quand ça sera vraiment réveillé. » Et pour moi, ça a pris quand même beaucoup de temps, au point que j'ai dû revoir plusieurs fois mon médecin de la main, mon chirurgien de la main, qui lui-même était un peu perplexe et puis qui savait pas très bien quoi me dire. Je pense qu'il avait peur, mais il me le disait pas, qu'il ait endommagé le nerf. Mais en même temps, il me disait non, parce que c'est revenu dans certains doigts, mais pas tous. Donc, c'est pas ça. Mais peut-être que le nerf, des fois, il se rétracte un peu beaucoup, parce qu'il faut quand même titiller le nerf quand on coupe ce canal carpien pour voir qu'il soit bien là. Ça le rend un peu timide. Apparemment, il se rétracte un peu. Puis le temps qu'il se remette en place, ben, ça peut prendre du temps. Et pour moi, ça a pris à peu près 6 mois.
Ce qui pourrait ralentir la récupération, ça peut être plusieurs choses. Je pense à la sévérité. Avant l'intervention, si on a des nerfs qui étaient particulièrement endommagés avant l'intervention, ça va prendre plus de temps à se remettre. Et puis parfois, ça peut ne pas se remettre complètement aussi. Et puis, s'il y a une inflammation plus importante en lien avec l'intervention ou avant l'intervention, par exemple, s'il y a un contexte d'arthrose aussi, peut-être ça prendra plus de temps à récupérer. Il y a effectivement des cas où on peut rien faire. Parce que c'est aller trop loin. Je pense notamment au cas de patients plus âgés qui parfois n'ont pas forcément consulté quand les symptômes ont débuté ou ont banalisé les symptômes pendant plusieurs années en fait. Et puis ils arrivent dans des moments où par exemple ils n'arrivent plus à boutonner leur chemise ou ils n'arrivent plus à coudre alors qu'ils faisaient ça dans leur quotidien. Et quand je les examine, en fait, ils ont perdu tout le muscle qui est innervé par ce nerf médian. Et là, en fait, c'est trop tard. Ils ont perdu le nerf parce que pendant plusieurs années, ça a été enflammé et puis ça n'a pas été diagnostiqué. Et là, malheureusement, on n'a plus grand-chose à faire. On peut proposer une opération avec des objectifs qui seront beaucoup moindre par rapport à ceux qu'on aurait si on était venu plus tôt. On pense peut-être aider pour la douleur, mais par contre, on ne va pas récupérer la force qu'on a perdue, malheureusement.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le syndrome du tunnel carpien en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.